BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 18-19. On parlera tout au long de ce 18-19 du choc mondial de ce blocage du détroit d'Hormuz, avec notamment Benoît Chervalier. Il est le président Afrique du Business Europe. Là, on verra le côté africain, puisque s'ouvre un sommet très important qui va peut-être sonner le retour des relations franco-africaines. C'est le Africa Forward. Il y a Emmanuel Macron qui y sera. Ça sera le 11 et le 12 mai. Avec lui qui est un grand expert de l'Europe, puisqu'il est de l'Afrique, puisqu'il dirige pour Business Europe, il dirige la partie africaine. Et puis, il a publié un livre très intéressant, Ce qu'attend l'Afrique. On verra pour lui quels sont les gros enjeux de ce continent quand même oublié. Puis ensuite, deux excellents économistes seront avec nous pour décrypter tout ça. Nicolas Bouzou, qui est président du cabinet Asterès, et avec lui en direct de Wharton, de Washington, ça sera Sylvain Catherine, économiste. Il est professeur assistant de finance, justement, à la Wharton School. Mais tout de suite, le journal avec Stéphanie Collot.
Le journal.
Retour en France avec vous. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Edwige.
On commence par le gouvernement qui va élargir les aides destinées à certains secteurs face à la flambée des prix du carburant.
Oui, même si le prix du baril de Brent ou de WTI baisse nettement sous les 100 dollars, les prix à la pompe restent élevés en France. Aujourd'hui, les pêcheurs, les agriculteurs, le BTP ou encore les grands rouleurs bénéficient d'aides à l'achat de carburant. Mais le Premier ministre assure que d'autres professions pourraient rejoindre cette liste. Sébastien Lecornu promet de n'abandonner personne. Une prise de parole est attendue en début de semaine prochaine. Autre conséquence de la guerre au Moyen-Orient, le déficit commercial de la France se creuse encore un peu plus au premier trimestre, près de 3 milliards d'euros supplémentaires alors qu'il s'était redressé l'année dernière. Il dépasse désormais les 14 milliards d'euros. En cause, la facture énergétique. Les importations d'énergie du pays ont bondi de plus de 11% en valeur. Aux États-Unis, McDonald's publie un chiffre d'affaires en hausse de 3,9% sur son marché domestique, c'est nettement inférieur aux attentes. La chaîne de restauration rapide a lancé des formules à bas prix et des offres à durée limitée. Mais la hausse des prix du carburant, là aussi, pèse sur le budget des ménages américains. Dans l'aérien, Emirates résiste malgré la guerre. La compagnie Emirati publie un bénéfice annuel net en hausse de 3% à 5,7 milliards de dollars, porté par les 11 premiers mois de l'année, les 11 premiers mois de l'exercice fiscal avant que le trafic de l'aéroport de Dubaï ne soit fortement perturbé par le conflit. Dans le fret maritime, le numéro 2 mondial, Maersk, maintient ses prévisions pour cette année. Malgré un large recul de son bénéfice net, il atteint 100 millions de dollars au premier trimestre. C'est 12 fois moins qu'il y a un an, mais la demande est en hausse de 2 à 4%. Et puis en France, Engie confirme ses perspectives 2026 malgré une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Il recule de 11,6% à 20,6 milliards d'euros. Le groupe fait état d'un impact limité à date de la crise au Moyen-Orient. 18h03 sur BFM Business, les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Stéphanie. Bonsoir,
bonsoir Antoine.
Et le CAC termine en baisse ce soir.
Oui, une baisse marquée, ça s'est joué au fixing d'ailleurs, moins 1,17, 8202 points, moins 0,6% pour l'Euronext Tech Leaders qui a fait un peu meilleure figure. Et du côté de l'Eurostock 50, on perd 0,9%. Mais globalement, on a perdu pas mal de terrain sur un certain nombre de compartiments de la cote et notamment ce qu'on appelle nos valeurs ennuyeuses, hein, les valeurs d'infrastructure, les valeurs de rendement. On a eu Engie qui a perdu 2,6%, 26,86 €. Bouygues aussi, moins 3,7% à 51,06 €. Et Pernod Ricard qui perd 3% à 64,02 €, entraîné à la baisse par les mauvais résultats de Campari à la Bourse de Milan, qui ont fait plonger le titre de 13% en clôture. En revanche, l'escadrille du luxe au grand complet a retrouvé du lustre. Hermès, plus 1,8%, 1,702. On a Kering qui a gagné 1,5% à 246,80 €. Et LVMH, plus 0,9%, 478,30 €. Le CAC 40, donc moins 1,17, 8,202 points. Les volumes d'échanges copieux, 4,8 milliards, hein, une bonne grosse séance. Et puis, ça s'arrange aussi sur le fond de l'obligataire, 3,62 pour le 10 ans français, 3% pour le 10 ans allemand. Attention, ça se retend un petit peu sur le 10 ans américain à 4,37.
Merci beaucoup. Merci Antoine, merci Stéphanie. Rendez-vous à 19h, 19h30 pour le journal de l'écho. Tout de suite, c'est Benoît Chervalier. Il est président Afrique de Business Europe. Il enseigne aussi à l'ESSEC. Il est banquier d'affaires. On va voir ce qui se passe sur le continent africain avec ce choc pour l'économie mondiale. Et puis, il y a l'ouverture de ce sommet très important avec Emmanuel Macron qui sera le 11 et 12 mai à Nairobi. À tout de suite.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Vous êtes bien dans le 18-19. On va parler d'Afrique, le continent un peu oublié. Et pourtant, il se passe des choses quand même très intéressantes sur nous, surtout pour nous, pour l'économie européenne et la France. On va en parler avec Benoît Chervalier, il est président Afrique de Business Europe. Bonsoir Benoît Chervalier, merci d'être là. Vous revenez de Côte d'Ivoire, vous repartez à Nairobi, où justement, et c'est l'actualité du jour, s'ouvre ce sommet Africa Forward, dans une manière de réchauffer peut-être les relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron va débuter sa tournée africaine ce week-end. Et puis, c'est intéressant de voir que pour la première fois, ce sommet se tiendra à Nairobi, c'est au Kenya, un pays qui est non francophone. Vous nous direz qu'est-ce que ça veut dire ou pas. Vous avez passé 25 ans en Afrique, vous avez été aussi en Allemagne, un peu partout dans le monde. Ma première question, avant d'aborder ce sommet, qui est quand même un point important, j'ai envie de dire la preuve, le président de la République française y va. On sait que les relations sont très tendues avec de nombreux pays, entre la France et ces pays. Quel est l'impact pour le continent africain de ce blocage du détroit d'Ormuz et de la guerre en Iran? On sait que le continent africain est très dépendant de ce qui sort du détroit d'Ormuz.
L'impact, il est massif, mais comme il est massif au niveau mondial, alors en ce qui concerne les pays africains plus particulièrement, alors tout d'abord, la production pétrolière représente à peu près 10% de la production mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui sont producteurs, donc ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Ouais. Donc le Nigeria, l'Algérie, le Tchad, le Gabon, l'Angola, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on pourrait se dire, ces pays qui sont exportateurs de pétrole sont nécessairement gagnants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet domino. Alors l'effet domino, c'est l'effet sur l'économie réelle, puisque ça touche évidemment le transport, ça touche la production d'électricité, donc ça touche le fonctionnement des usines, des mines, de l'exploitation minière. Donc en réalité, ça a un impact. Le premier élément, c'est que ça touche tous les pays, y compris les pays producteurs de pétrole, sur tous les secteurs de l'économie. Donc ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que l'impact sur le prix et le blocage des prix au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont décidé d'effectuer une forme de blocage des prix. C'est-à-dire, indépendamment de l'évolution, les prix sont bloqués. Donc, c'est le cas, par exemple, du Kenya. D'autres ont décidé de subventionner. Donc, c'est un coût pour les finances publiques. L'exemple de la Côte d'Ivoire. Le prix, par exemple, du litre d'essence en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 1,10 €.
D'accord. Donc, c'est quasiment deux fois moins cher que chez nous.
Voilà. Mais parce que c'est un coût budgétaire, parce que le gouvernement estime que c'est absolument vital pour le fonctionnement dans des circonstances où ce qui est gagné de manière journalière est dépensé à la fin de la journée. Donc l'élément du transport, il est fondamental. Donc c'est un coût évidemment important pour les finances publiques. D'autres, par exemple un pays comme l'Éthiopie, aujourd'hui on trouve plus de diesel en Éthiopie. Donc c'est aussi un élément d'acheminement. Enfin, vous avez par exemple des pays qui sont certes qui sont producteurs de pétrole, mais qui exportent du pétrole brut. Donc, ce qui veut dire qu'il doit être raffiné. Et s'il est raffiné, ça veut dire qu'il doit revenir. Et donc là, se trouve une mécanique qui est un petit peu complexe, qui fait que ça pose la question pas simplement de l'extraction et de la production en tant que telle, de la matière brute, mais du raffinage. Donc on parlait du Kenya et on va en parler dans quelques instants avec le sommet. Un pays qui jusqu'à présent disait c'est pas forcément le coût-bénéfice d'une de rentrer dans une logique de raffinage et de raffinerie est trop important. Et donc, là, se repose la question de savoir, oui, il faudrait raffiner. Donc, un des grands gagnants, par exemple, c'est Dangote et le Nigeria, avec son usine récente de raffinage.
Mais est-ce qu'il y a une vraie... on le ressent, nous, mais évidemment pas dans les mêmes proportions, mais est-ce qu'il y a un impact très fort autre que pétrolier? Est-ce que ça a vraiment, sur le pouvoir d'achat qui est déjà très faible, est-ce que ça a vraiment un impact fort? Est-ce qu'il y a urgence, quelque part, à soutenir le continent africain avec cette guerre en Iran et ce blocus du détroit d'Hormuz?
Bien sûr qu'il y a une urgence. Alors, comme je vous disais, c'est du cas par cas. Tous les pays ne sont pas du tout... Si vous êtes exportateur net ou si vous n'avez rien du tout, au contraire, vous en avez, évidemment, ce n'est pas la même situation.
D'accord.
C'est du cas par cas. Justement, ce n'est pas l'Afrique. Ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, c'est les Afriques, c'est du cas par cas. Maintenant, là où tout le monde est touché, c'est le coût sur l'économie réelle. On en parlait un instant, sur le fonctionnement des usines, sur le coût de l'électricité. Donc là, ça impacte tout le monde, mais aussi sur l'inflation. En avril dernier, juste quelques jours après le déclenchement, enfin quelques semaines après le déclenchement du conflit, il y a eu les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI qui ont révisé à la hausse l'inflation attendue pour 2026 et à la baisse la croissance attendue. Donc plus d'inflation, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire un coût d'emprunt qui est plus fort. Donc, si on a un coût d'emprunt qui est plus fort, comme pour la France...
Comme pour la France, on connaît en France, oui.
Voilà. Donc, ça veut dire un montant du service de la dette qui va être plus important. Donc, ça, évidemment, c'est négatif pour les finances publiques. Donc, la hausse de l'inflation n'est clairement pas une bonne nouvelle.
Vous avez une phrase que j'ai bien aimée, où vous dites « L'Afrique ne veut plus être au menu, mais elle veut être à la table ».
Oui.
Est-ce qu'elle a... Pardonnez-moi cette question un peu directe, un peu cash. Est-ce qu'elle a les moyens d'être à la table aujourd'hui ou pas?
Bien sûr, parce que on parlait de justement des richesses du continent africain. C'est des richesses en matière de matières premières déjà. Donc ça, on en entend beaucoup. Alors, il faut rentrer de beaucoup plus dans le détail. Mais quand on parle du manganèse, quand on parle du nickel, quand on parle du cobalt, on parlait même de présence pétrolière. J'ai dit à peu près 10% gazière. Ces toutes dernières années, il y a eu aussi des découvertes, par exemple, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Sénégal. Très récemment, en Amérique. Donc, le sous-sol, j'allais dire, du continent, dans sa diversité, fait que l'Afrique, les pays africains deviennent et redeviennent un pays d'attention à la fois géopolitique et économique.
Oui, en même temps avec une instabilité politique parfois très difficile.
C'est vrai, mais ça aussi, ça dépend dans quel,
non, mais bien
dans
sûr,
quel pays on se situe. Je vais prendre juste un exemple. Il y a eu une visite récemment du chef d'État du Botswana. Je pense que le Botswana n'est pas nécessairement beaucoup évoqué dans les différentes antennes en Europe ou en France en particulier. Bon, le Botswana, c'est un pays qui est grand comme la France en termes de superficie, qui a une population qui est plutôt petite puisque c'est en gros Paris intramuros, c'est un peu plus de 2,5 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui a connu une alternance politique pour la première fois depuis près de 60 ans l'année dernière, qui s'est très très bien passée et personne n'en a parlé. Donc, ce que je veux simplement
dire... On a parlé du Mali et un peu du Soudan, malheureusement, pas suffisamment.
Donc, et sur 54 pays, sur un continent qui fait 30 millions de kilomètres carrés, qui est l'équivalent de l'Europe, de la Chine, des États-Unis et de l'Inde, nécessairement, vous avez un effet loupe qui fait que vous regardez là où sont les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier. C'est pour ça que moi, j'appelle à être évidemment très lucide, parce que sinon, on n'est pas crédible. Mais en revanche, à prendre en compte, justement, cette différenciation pour, in fine, comprendre aussi les dynamiques en cours.
Alors, je vais reprendre le titre de votre livre aux éditions de l'Aube, « Ce qu'attend l'Afrique ». Là, il y a ce sommet, Africa Forward, c'est un sommet franco-africain, avec le président Macron qui va faire une tournée, mais donc il sera à Nairobi pour l'ouverture lundi prochain. Qu'est-ce qu'attend l'Afrique, justement? Qu'est-ce qu'elle attend de la France? Parce que nous, vu de chez nous, on a toujours l'impression qu'aujourd'hui, on est toujours le grand méchant loup, le colonisateur. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Mali, c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'on est vraiment la bienvenue, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire.
Alors, d'abord, pour répondre à la question, ce qu'attend l'Afrique, je dirais, c'est la liberté de ses choix, comme d'ailleurs tous les pays qui entendent être et rester souverains et être sous la tutelle de personne. La France, comme les pays européens, sont exactement dans la même situation. Ouais. Donc, en réalité...
La Russie et les Chinois, un petit peu différemment.
Donc ce qu'attend, c'est justement cette liberté des choix. Alors ensuite, sur le sommet plus particulièrement, ce qui est intéressant de noter d'abord, c'est le focus qui est fait, l'attention particulière qui est faite sur les questions économiques et sur le secteur privé. Je vous disais, en effet, je pars demain, il y aura à peu près 2000 entreprises qui sont attendues. Donc ça montre bien ce changement de paradigme dont on parle. Deuxièmement,
et on va rappeler que vous êtes le patron pour l'Afrique de Business Europe, hein, donc voilà. Ça veut dire que vous êtes en première ligne.
C'est ça. Alors, on a eu d'ailleurs au niveau européen, en novembre dernier, à Luanda, en Angola, le 7e sommet Union européenne, Union africaine, et là, qui avait mis justement pour la première fois également le secteur privé et les entreprises comme l'un des éléments clés du sommet. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de ce changement de paradigme. Ensuite, sur côté français, si vous voulez, le biais aussi que nous on peut avoir, en tout cas vu de Paris, c'est que Afrique égale Afrique subsaharienne francophone. Et c'est pas la même chose. L'Afrique subsaharienne francophone, c'est 14 pays. L'Afrique, c'est 54 pays. Donc, quand on dit les relations entre l'Afrique et la France sont mauvaises, c'est factuellement inexact, puisqu'il y a dans énormément de pays, je peux vous le dire pour le sillonner et y aller extrêmement régulièrement, quand vous êtes au Kenya, c'est même pas un sujet en réalité. Quand vous êtes au Nigeria, c'est pareil. Quand vous êtes en Éthiopie, c'est pareil. Quand vous êtes en Afrique du Sud, c'est pareil. Donc c'est cette distinction entre l'Afrique subsaharienne francophone et le reste du continent africain. On peut prendre des chiffres. Par exemple, la France est le deuxième exportateur et le deuxième investisseur en Angola. Grand pays, plus grand pays d'Afrique lusophone, de langue portugaise. Quand on regarde les quatre premiers partenaires commerciaux entre la France et des pays africains, les trois premiers sont d'Afrique anglophone et lusophone.
Mais c'est intéressant, ça veut dire quelque chose, politiquement.
Non, justement, il faut pas avoir une lecture politique, parce que ça dépend tout simplement de la taille des économies.
Est-ce que c'est la taille des économies aussi simplement parce que là, il n'y a pas un passé colonial. C'est plutôt les Belges qui ont un problème avec le Kenya que nous, quoi.
Je pense pas qu'il faille avoir une lecture politique de ça. Tout simplement, parce que quand vous avez...
Non, mais est-ce que eux, ils l'ont?
Non, parce que quand vous êtes le Nigeria. Le Nigeria, c'est 240 millions d'habitants.
Ouais. C'est
donc,
dingue.
C'est un PIB qui est à peu près de 400 milliards. Vous ne pouvez pas le comparer avec un pays comme le Gabon, comme le Bénin, comme le Togo, pour prendre des exemples différents, qui ont entre 2, 3, 4 millions d'habitants, et puis un PIB qui est inférieur à 10 milliards. Ouais. Donc, en fait, c'est une question de volume. Il ne faut pas le voir justement avec une lunette politique, mais avec une lunette qui dépend de la taille des économies, des dynamiques. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des difficultés, et on les connaît tous. Mais c'est juste ne pas avoir, si vous voulez, ce biais déformant, cette lunette déformante, pour mettre le zoom, finalement, sur des chiffres qui sont modestes et des difficultés qui sont élevées, et à l'inverse, des chiffres qui sont importants, en valeur comme en volume, et pour lesquels il y a beaucoup moins de difficultés.
Quand on regarde les principaux investisseurs, on vient de voir passer la carte, peut-être qu'on peut la remettre pour ceux qui nous regardent à la télévision. Les principaux investisseurs, c'est évidemment les États-Unis, de loin, j'imagine.
Non.
C'est les États-Unis.
Non plus.
Non.
Justement, là aussi, vous voyez,
ouais,
c'est intéressant.
C'est ce que montre la carte, c'est pour ça que je m'appuie dessus, mais à tort, visiblement.
Les États-Unis, en réalité, sont un acteur qui sont clairement beaucoup moins importants que les autres acteurs à taille économique comparable. C'est-à-dire qu'on voit la taille, évidemment, de l'économie américaine, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait des flux commerciaux beaucoup plus importants. Pour donner juste un exemple pour nos
et donc quel est le premier? Voilà, quel est le premier alors?
Donc voilà, donc le premier, ça va être l'Union européenne, de très très loin, avec près 450 milliards pour parler en dollars, juste pour parler de la même unité de monnaie comparable. C'est à peu près, l'année dernière, c'est 450 milliards de dollars. Le deuxième, c'est la Chine, avec un peu moins de 350 milliards. Donc il y a un différentiel de près de 100 milliards au bénéfice de l'Union européenne, avec par ailleurs des échanges qui sont beaucoup plus équilibrés que ceux qui existent avec la Chine. Le troisième, ça va être l'Inde, qui est en augmentation aussi sur les dernières années. Et les États-Unis, en réalité, sont à peu près au niveau de la France, très légèrement supérieur. La France, c'est 65 milliards d'euros d'échanges commerciaux l'année dernière entre Donc la France est le...
Et quels sont les secteurs justement où les Européens, les Français sont bien placés?
Alors, si c'est les Français et les Européens, c'est pas
oui, tout à fait pareil. Oui, c'est pour ça que j'ai pris une respiration entre les deux. Benoît Chevalier, c'était pour indiquer que c'est les deux qui nous intéressent, quoi.
Oui. Alors, une des caractéristiques françaises, c'est justement sa assez grande diversité sectorielle. C'est-à-dire qu'on va trouver des opérateurs télécoms, comme Orange
très présent là-bas, évidemment.
Très présent sur le continent. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, qui est aussi présente sur le volet bancaire et monétaire. C'est-à-dire qu'on parle souvent de dire qu'il y a un retrait des banques françaises. En réalité, il faut beaucoup nuancer cet élément-là, qui peut être très trompeur. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu des cessions de filiales dans un certain nombre de pays, mais qui n'est pas du tout un élément français, qui est en réalité toutes les banques internationales. Et toutes ces filiales ont été rachetées, non pas par d'autres banques internationales, pas plus qu'elles n'ont été rachetées par des banques chinoises, des banques indiennes, des banques turques, elles ont uniquement été rachetées par des acteurs africains.
Donc c'est pas
la même chose. Et deuxièmement, si on prend l'exemple d'Orange, Orange Money marche très très bien. Donc là aussi, il faut une distinction.
Oui, parce qu'en fait, je fais juste une petite, je continue sur votre petite incise. Ce qui est intéressant, c'est de voir. J'en parlais justement avec un chef d'entreprise marocain.
Oui.
C'est qu'en fait, c'est des économies qui sont, c'est tellement grand, c'est des économies qui sont très basées sur le mobile. Sur l'intelligence artificielle, à la limite, ils sont presque en train de nous devancer parce qu'ils ne sont pas passés par le cuivre et tout ça.
C'est le fameux leapfrog.
Oui, exactement.
C'est-à-dire le saut qui fait qu'on ne passe pas par le téléphone fixe.
Mais c'est vrai.
Directement. Bien sûr.
Oui.
Alors, je donne une petite anecdote d'ailleurs dans mon livre, puisque ça fait à peu près 15 ans que j'enseigne. J'ai eu un peu plus de 1000 étudiants.
Oui, et vous êtes enseignant à l'ESSEC.
À l'ESSEC, voilà. J'ai créé une chaire, je dirige une chaire qui est business et industrie en Afrique, qui est ciblée sur l'industrialisation et la transformation locale des économies. Et donc, ce qui est dans l'exemple que je donne avec ces étudiants, donc d'origine et de nationalité très différentes, donc des Afriques, mais également des Indiens, des Chinois, etc. Et donc, ce que je relate, c'est qu'il y a 15 ans, la totalité la quasi-totalité de mes étudiants subsahariens, à l'exception des Sud-Africains de l'Afrique du Nord, qui ont un élément bancaire plus sophistiqué, payaient tous par téléphonie mobile. Il y a 10 ans. Et j'en avais quasiment aucun de mes étudiants qui étaient européens, américains, qui payaient. Et les autres, c'était les Chinois qui étaient comme les subsahariens. Donc c'est un bon exemple que justement, quand vous n'avez pas un élément de sophistication, moi je préfère parler de sophistication, vous vous adaptez, vous innovez, et c'est aussi deux caractéristiques que beaucoup d'économies du continent.
Autre enjeu très important, c'est la question des terres rares, vous l'avez mentionné en introduction. Là, ils ont une carte à jouer formidable. Est-ce qu'ils la jouent suffisamment? Parce qu'on a vu les difficultés, parfois, toujours encore une fois, avec la France. Mais comment est-ce que vous analysez, vous décrivez ce qui se passe là?
Oui, alors vous voyez, la loupe est un bon élément pour dire justement, ça dépend l'effet loupe, donc l'effet agrandissant, au contraire rétrécissant qu'on peut avoir. Donc sur l'enjeu des terres rares et de manière plus globale des minerais, il est fondamental, je mentionnais la chaire à l'ESSEC à l'instant, il est fondamental ce qui permet en réalité d'atteindre deux choses. La première, c'est de sortir d'une économie, on va dire, d'extraction, une économie uniquement d'échange pour aller de matière brute pour aller vers une économie de transformation sur place. Alors ça permet de générer de la richesse, bien sûr, ça permet de créer des emplois directs et indirects, ça permet aussi de limiter l'empreinte carbone, puisque au lieu d'être envoyé à l'autre bout du monde, d'être transformé et de revenir et d'être transformé localement, c'est aussi un bénéfice environnemental, et enfin ça a aussi un impact géopolitique. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, je me suis rendu dans la zone de Kenitra. Alors Kenitra, c'est à peu près une heure de Rabat. Il y a à peu près 5-6 ans, Kenitra c'était des friches. Aujourd'hui, Stellantis a son usine là-bas qui produit 535 000 véhicules. C'est la quatrième usine du groupe. Il y a 55 000 emplois directs et indirects qui ont été créés en l'espace de 5 ans. Et là, on voit bien qu'il y a cette transformation avec un écosystème, premier producteur de jantes mondial aussi qui est là-bas. Donc, c'est pour vous montrer que cette transformation locale, eh ben, en réalité, c'est l'avenir et qui permet évidemment d'atteindre tous les objectifs que j'ai mentionnés.
En même temps, lorsqu'on regarde les besoins à la transition écologique, je crois que c'était un chiffre de la COP 29 qui disait que le coût annuel était de 1300 milliards de dollars pour cette transition écologique. Est-ce que là aussi, elle est passée un peu à l'as aujourd'hui avec le développement, la guerre en Iran, le détroit d'Hormuz ?
Non, mais...
On l'a laissé de côté ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois une flexibilité et surtout de ne pas faire un copier-coller avec ce qui a fonctionné ou ce qui est réalisé dans d'autres économies, évidemment matures, mais même émergentes. C'est-à-dire que la solution... des pays du continent africain, c'est pas la solution évidemment des pays européens, mais c'est pas non plus exactement la solution de, par exemple, du modèle que la Chine, le Vietnam ou l'Indonésie ont pu réaliser, parce que il y a une singularité qui est propre et donc qui explique justement cette adaptation. Donc concrètement, quand je parle de transformation, il faut beaucoup d'énergie. Donc si vous voulez créer un barrage, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc vous avez besoin, par exemple, de gaz liquéfié et donc vous assurez cette transition. Donc c'est cette agilité, cette flexibilité qu'il faut comprendre, nous partenaires, nous Européens, pour dire que c'est pas nos modèles, entre guillemets, qui peuvent fonctionner chez nous, qui doivent être nécessairement totalement appliqués dans...
Ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. En conclusion, Benoît Chavalli, si vous aviez, un conseil à donner, vous avez dit il y a 2000 chefs d'entreprise qui vont à ce sommet-là, ce week-end et lundi, mardi, c'est quoi pour faire du business en Afrique, vous qui êtes banquier d'affaires, c'est quoi?
C'est justement de prendre des lunettes différentes. Le potentiel est énorme. On passe de 1,5 milliard à 2,5 milliards. Donc il y a juste 1,5 milliard de consommateurs supplémentaires dans les 20 prochaines
années.
Hein. Donc ça, c'est un élément qui est juste factuel. On a parlé des terres rares, des minerais. Donc c'est un deuxième élément fondamental. Et donc ma conviction, qui est ma conviction aussi, c'est que ce que je sais, c'est que personne ne sait dire ce qui se passera dans 20 ans, mais c'est que les décisions qui sont prises aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vont déterminer la trajectoire des 15 à 20 prochaines années. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre comprendre cette évolution extraordinairement rapide et cet enthousiasme, puisque finalement, c'est de ça dont il s'agit.
En tout cas, voilà, c'est le sommet Africa Forward. Africa, sommet France-Afrique avec Emmanuel Macron donc qui sera là-bas et vous puisque vous avez retardé votre avion pour être avec nous. Merci beaucoup Benoît Chevalier. Je rappelle que vous publiez ce qu'attend l'Afrique, ressources locales, tensions mondiales dans ces formidables éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous dans un instant pour nous aider encore à décrypter ce qui se passe. Deux excellents économistes, Nicolas Bouzou, président du cabinet du conseil Asterès, et puis Sylvain Catherine qui était en direct de New York. Il est professeur assistant de finance à la Wharton School, mais ce qu'il écrit et ce qu'il publie en France fait toujours le buzz, comme on dit. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Retour dans le 18-19. Allez, je vais me lancer deux des meilleurs économistes, bien sûr, qui sont avec nous. On a cette chance. Bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être là.
Avec
vous
plaisir.
Êtes le directeur, fondateur, président du cabinet de conseil Asterès. Vous avez publié dans de nombreuses publications. Et puis avec vous, il est aussi, en tous les cas, j'ai presque envie de dire, un des plus redoutés, parce qu'il a une plume très acérée, Sylvain Catherine, qui est économiste, professeur et assistant de finance à la Wharton School, en direct de Philadelphie. Merci Sylvain Catherine d'être avec nous. Beaucoup de questions parce que nous on connaît le côté européen français, même si vous écrivez sur la France, vous avez forcément une vision de ce qui se passe aux États-Unis. Moi la première question, après il y a plein d'autres questions, on dit qu'il y a peut-être un accord temporaire. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? On voit que le baril plonge et puis va remonter une fois que ce soir Donald Trump sera réveillé et dira ben non, finalement c'est pas suffisant. Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu une économie de yo-yo? Je commence par vous, Nicolas Bouzou. Après, on partira à Philadelphie.
L'économie, non, mais les marchés, oui. C'est très frappant quand même de voir à quel point, je trouve, les marchés, qu'il s'agisse des marchés de matières premières, des marchés actions, des marchés obligataires aussi, dans une moindre mesure, en fait, prennent les déclarations du président Trump et de l'administration Trump vraiment au premier degré. C'est-à-dire que s'il annonce, en effet, un accord merveilleux, fantastique, comme il sait le faire dans son vocabulaire, même si on sait bien que la crédibilité est quand même très faible, ça va faire exploser les marchés actions qui vont prendre 3%, le prix du baril va diminuer de 8%, et puis l'inverse, les choses vont se passer dans l'autre sens. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul par rapport au mouvement de marché, il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux annonces du président Trump et de son administration, et pour les dirigeants d'entreprises qui peuvent être un peu perdus, essayez vraiment de voir les grandes tendances. Et les grandes tendances, on les connaît, c'est une géopolitisation de l'économie, c'est le fait que le coût de la mondialisation, le coût de la logistique dans le monde, y compris les coûts d'assurance, augmentent. C'est le fait qu'on a aujourd'hui des changements très importants qui sont liés aux technologies, avec des changements sur la productivité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à déceler les grandes tendances en se déconnectant un peu des annonces au jour le jour.
Sylvain, Catherine, vous, quel est votre... J'imagine que vous n'êtes pas très, très éloigné de ce que vient de dire Nicolas Bouzou. En même temps, on se demande, et peut-être la question se pose aux États-Unis, c'est que, plus que chez nous, c'est que, est-ce que Donald Trump ne joue pas et ne fait pas fortune avec les évolutions des marchés d'actions et des marchés pétroliers?
Oui, évidemment, c'est une question qui se pose ici. J'allais dire qu'en fait, la dynamique, elle est compliquée parce que à la fois, les marchés sont très réactifs au discours politique et en particulier de Donald Trump. Et en même temps, Donald Trump est très réactif à l'évolution des marchés. Pour lui, c'est un vrai problème si les marchés tombent en termes d'élections à la fin de l'année.
Quel est le climat là-bas, puisque vous êtes à la Wharton School? Quel est un peu le climat? Est-ce que c'est aussi négatif vis-à-vis de Trump que nous, ce qu'on estime ici? Je ne sais pas, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, il est probablement assez biaisé parce que les États-Unis sont une nation assez divisée. Après, c'est vrai que Donald Trump a été élu en partie sur le pouvoir d'achat.
Et alors ?
Et en particulier sur l'inflation. Et donc là, effectivement, avec l'augmentation du prix du baril, ça a une implication aussi sur les prix du fuel.
Est-ce qu'il y a tout
le... Donc, les Américains, ils ont leur gros pick-up. Il faut que le prix de l'essence soit relativement faible.
Ouais. Mais il y a une colère qui gronde, justement, sur la question de pouvoir d'achat. Nous, on sent bien en France, hein, n'est-ce pas, Nicolas?
Bien sûr.
En France, que c'est en train encore de monter, là, malgré les déclarations du Premier ministre Sébastien Lecornu. Est-ce que chez vous, est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'il y a un peu cette colère de ceux qui ont élu Donald Trump?
Oui, alors il y a deux facteurs en fait d'inflation ici. L'un, c'est effectivement de façon plus conjoncturelle la guerre en Iran. Mmh. Et il y a aussi depuis l'an dernier les tarifs douaniers qui sont répercutés en partie sur les consommateurs, comme la théorie économique le prédirait. Mmh. Et donc effectivement, c'est un problème électoral. Après, je pense que politiquement, ce que l'administration Trump essaie de faire, c'est de créer une legacy, comme on dirait ici. Mm-hmm. C'est-à-dire de trouver quelque chose qui restera dans les manuels d'histoire et que Trump aurait fait.
Ouais. Est-ce qu'on va vers une vraie crise mondiale, vous estimez, Nicolas Bouzou?
Alors, en fait, comme je vous disais, la grande nouveauté en fait de ces quatre dernières années, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est le fait que l'économie est soumise à la géopolitique. C'était pas le cas avant. Moi, la première grande crise que j'ai connue depuis que je suis dans le débat public, c'était la crise de 2008. C'était une crise complètement endogène à l'économie. Là, c'est pas le cas du tout. Donc, on est entré dans une économie soumise à cette géopolitique et donc par nature radicalement imprévisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète? Ça veut dire que si je me projette à octobre ou novembre, le prix du baril de pétrole, il peut être à 160 $, il peut être à 60 $, parce que en réalité, on l'oublie, mais avant la guerre en Iran, il y avait énormément de pétrole. Enfin, il y a toujours d'ailleurs beaucoup de pétrole, sauf qu'il est bloqué, il circule pas. Mais la production de pétrole, elle est potentiellement très élevée. Alors cela dit, vous donner une réponse qui soit plus satisfaisante que tout peut arriver, je ne sais pas. moi, je suis quand même, et c'est assez rare, on se connaît depuis longtemps, là, je suis quand même un peu inquiet parce que je ne vois pas, au fond, le chemin, le process de réouverture du détroit d'Ormuz. Si vous voulez, c'est pas clair. Et tant que ça reste bloqué, ben, on va faire face non seulement à des augmentations de prix, mais qui vont se propager de proche en proche dans l'économie. Je vous donne un exemple très concret, parce que les gens aussi ont besoin de choses très concrètes. Prenez les sacs poubelles, par exemple. Les sacs poubelles, ouais. Non, mais les sacs poubelles, c'est fait avec du pétrole qui transite en théorie par le détroit d'Ormuz. Tout le monde en achète. C'est pas les billets d'avion, tout le monde en achète pas. Ça augmente beaucoup, mais tout le monde. Et donc voilà, ça typiquement, c'est un prix qui risque de beaucoup augmenter ces prochaines semaines. Donc je suis inquiet quant à l'inflation, mais surtout inquiet quant à la croissance, bien évidemment. Parce que je vois pas le chemin et parce que l'administration Trump, au fond, a perdu toute crédibilité dans les annonces qu'elle peut faire.
Sylvain, Catherine, est-ce que vous, on voit derrière vous, on voit des petits schémas, ça monte, il y a une bosse et tout, j'ai l'impression de me retrouver dans les cours d'économie. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de Nicolas Bouzou ?
L'inquiétude, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes en fait, sur les prochaines années. Après, il se passe deux choses en même temps. Donc effectivement, Nicolas a évoqué l'instabilité géopolitique. Mais s'il y a une crise mondiale, les marchés financiers ne sont pas du tout au courant, en tout cas, parce qu'on est à des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Et donc, en fait, il se passe autre chose. Et l'autre chose, évidemment, c'est la révolution réelle ou hypothétique de l'intelligence artificielle. La croissance américaine est largement tirée par des investissements qui se comptent en centaines de milliards de dollars juste pour les plus grandes boîtes qui annoncent effectivement leur investissement annuel. Et donc, la vraie question au-delà de la question géopolitique est est-ce que, en fait, toutes les promesses de l'intelligence artificielle vont se matérialiser ? Et l'avenir à la fois des marchés boursiers, mais aussi de la dette américaine, par exemple, dépend structurellement de la réponse à cette question.
D'accord. Donc, finalement, moins de la guerre de l'Iran. Donc, il y a des tendances structurelles qui sont tellement fortes là, en ce moment. Oui. Que du coup, c'est ça qui porte les marchés.
Absolument. Alors, je vais essayer d'aller encore de prendre un risque pour le coup en matière de prévision. En fait, je pense que les deux sont. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, mais au regard de l'histoire, parce que la révolution industrielle de l'IA, de la robotique, des biotech, demain ou après-demain du quantique, elle va tenir ses promesses et qu'elle va générer des gains de productivité et de la croissance de façon vraiment très très importante, complètement sous-estimée par les observateurs. En revanche, je pense que le timing de la crise géopolitique et des effets positifs de cette révolution industrielle, c'est pas le même. C'est là où les marchés peut-être se trompent un peu ou sont exagérément optimistes. C'est-à-dire que la crise géopolitique, c'est maintenant et on n'en voit pas la sortie. Les gains de productivité, l'accélération des gains de productivité, même si on commence à les voir un tout petit peu dans les statistiques, notamment aux États-Unis, mais le gros de ces gains de productivité, et donc la croissance et l'impact sur les profits, etc., ça reste quand même à l'horizon de quelques années. Donc il me semble quand même, y compris du point de vue des marchés, qu'on peut craindre un ajustement à la baisse, qui n'est pas grave d'ailleurs, hein. Enfin, je veux dire, dans toutes les grandes révolutions technologiques, enfin, Sylvain connaît ça par cœur aussi, mais enfin, les chemins de fer, l'électricité, enfin, il y a toujours des montagnes russes sur les marchés qui ne remettent pas en cause le fait qu'il s'agit bien de révolutions industrielles. Mais je pense que les effets positifs massifs sur l'économie réelle, c'est pas pour le deuxième semestre 2026.
D'accord. Sylvain, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, c'est vrai.
Il a raison, il a tort.
Ce qui pousse l'économie en ce moment, ce n'est pas directement les gains de productivité qui en sont attendus, mais c'est l'investissement qui est réalisé immédiatement.
Ouais. Oui, mais en même temps, lorsqu'on voit tout ce qui est l'argent, le flot, c'est même plus un flot, je sais plus ce que c'est, mais d'argent qui est déversé à Wall Street sur les boîtes de tech, certains disent que c'est devenu, ça va craquer, ça va exploser, c'est pas possible autrement.
Ah, vous savez, il y a une règle pour les économistes, c'est de jamais prédire si une bulle va éclater ou pas.
Ah bon ?
Je vais m'en tenir là.
Non, ça c'est un joker, là. C'est pas honnête, hein, Sylvain, Catherine. Nicolas Bouzou, vous n'allez pas me faire le coup, vous aussi.
Non. Moi, je pense que chaque révolution technologique génère sa bulle pour une raison simple, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à évaluer la valorisation des entreprises. Ouais. Aujourd'hui, vous regardez les boîtes de l'IA, en réalité, elles perdent toutes de l'argent. Mmh. C'est ça la vérité. Donc, c'est très difficile de savoir qui va en gagner demain, comment vont évoluer les parts de marché, quels seront les business models. Et donc, les marchés commettent forcément plein d'erreurs. Mmh. Donc, après, on peut discuter du terme de bulle, mais enfin, bon, si on fait des raccourcis, oui, il y a une bulle, oui, elle va éclater. Et j'ajouterais, ça n'est pas du tout un problème. C'est même d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle parce que vous avez plein d'entreprises qui sont super, qui en fait vont voir leur valorisation s'écrouler et que des entreprises plus grosses, extrêmement riches, etc. vont pouvoir racheter. Donc c'est ça, je dirais que ça fait partie de l'histoire, que c'est devant nous et que vous allez voir que quand la bulle aura éclaté, il y aura plein d'observateurs qui vont dire « Ah, mais on vous l'avait bien dit, en fait, la révolution de l'IA, c'était de la poudre aux yeux, c'est pas vrai. » Non, c'est parfaitement vrai.
Sylvain, Catherine, on va commencer après Nicolas. Mmh, ouais. Récession ou pas, à court ou moyen terme, ou stagflation ou croissance
Dans le monde ou en Europe?
Dans le monde et en Europe et en France.
Dans le monde en général et en particulier aux États-Unis, ça dépend vraiment de ce dont on vient de parler.
D'accord.
Donc effectivement, si en ce moment la croissance elle est vraiment portée par l'investissement dans l'intelligence artificielle, mm-hmm. et donc s'il y a une bulle et qu'elle éclate, la situation va très rapidement se retourner et la question des finances publiques américaines va se poser très sérieusement. En Europe, je pense qu'on est et en particulier en France, on est devant une période de stagnation tant qu'on n'aura pas résolu la question budgétaire, les agents vont être attentifs et ne vont pas prendre d'initiative. L'investissement va rester bas et donc on va stagner.
On va revenir sur ce point-là parce que vous avez publié une tribune très intéressante, je crois que c'était fin avril, sur l'irresponsabilité budgétaire qui expose la France aux turbulences mondiales, un peu plus que les autres pays, notamment européens. Juste pour répondre à la question... Vous êtes quoi? Vous êtes récessif? Vous êtes stagflation?
Alors, stagflation, non, parce que stagflation, pour qu'il y ait vraiment de l'inflation, il faudrait qu'il y ait un processus auto-entretenu, c'est-à-dire que les hausses de prix entraînent des hausses de salaire qui entraînent des hausses de prix, etc.
Ouais, enfin, on va se prendre, on s'est déjà pris à 1,7, on va passer à 2. Je parle pour la France, cette fois-ci, Sylvain Catherine.
Il y a une hausse des prix qui est extrêmement pénible, évidemment, pour nos concitoyens, mais je ne pense pas qu'il y ait de l'inflation au sens où on
est. Ah, c'est pas le grand retour de l'inflation.
Ça, j'y crois absolument pas.
D'accord.
Qui est donc cette hausse des prix et un ralentissement de la croissance. Oui, pour faire le lien avec peut-être ce dont on va parler et l'article de Sylvain, quand même l'un des grands sujets auxquels on devrait réfléchir, c'est que le Covid, on avait encore des moyens budgétaires pour absorber la crise. Le choc, la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine, on avait encore, ou en tout cas on a pensé qu'on avait encore des moyens budgétaires qui nous permettaient d'aider les uns et les autres, les ménages et les entreprises pendant la crise. Là, le gouvernement, et à mon avis, il a mille fois raison, considère qu'on n'a pas d'argent.
Il n'y a pas d'argent magique, vient de déclarer.
Cette énorme pilule de la hausse des prix et de la baisse de l'activité, on doit l'avaler tout rond, comme un gros cachet qu'on doit avaler tout rond. Et je considère que le gouvernement, au fond, que fait le gouvernement ? Il radine. Donne le moins possible aux agriculteurs, le moins possible aux routiers, le moins possible aux pêcheurs. Mais je soutiens à fond. Il a raison.
Ben, surtout que le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il est payé par Total. Total Énergie, en fait, c'est ça. Voilà.
Et finalement, l'arrangement, tout le monde critique Total Énergie en disant ils font des super profits, etc. Bon, moi, au-delà du fait que je suis ravi qu'une entreprise fasse des super profits, je trouve que c'est une super nouvelle. Mais je trouve que finalement, le deal qui a été trouvé avec Total, c'est-à-dire tu fais tes profits et en revanche, tu limites les prix à la pompe, je pense que c'est très bien, en fait.
Ouais. Sylvain, Catherine, on a fait allusion à cette tribune que vous avez publiée où vous parlez de cette responsabilité budgétaire française. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que vous dites que finalement, on est plus exposé si jamais il y a des taux d'intérêt qui sont de plus en plus tendus. La France sera plus pénalisée que les autres parce que justement, il y a toujours cette épée de Damoclès sur notre capacité à rembourser. Expliquez-nous.
En fait, le stock de dette actuellement, il est assez élevé, mais la charge de la dette, une fois qu'on retranche en fait le fait qu'elle se déprécie avec l'inflation, elle est assez modeste dans le sens où en fait, on a emprunté il y a quelques années quand les taux étaient faibles. Aujourd'hui, les taux sont nettement plus élevés, mais on n'en ressent pas encore le coût intégralement parce qu'on... En fait, le taux va se mettre à jour au fur et à mesure qu'on refinance cette dette, qu'elle arrive à échéance. Et donc, on est déjà sur une trajectoire qui, juste du fait du roulement de la dette, va augmenter la charge de ses intérêts et va compliquer encore davantage la situation budgétaire.
Et donc ?
Et donc, va falloir faire des coupes assez dures dans les 5-10 prochaines années. Et je ne crois pas vraiment que le débat politique, en fait, il soit préparé.
Non, ça, on vous le confirme.
On parle de retraite à 62 ans, ce genre de choses, ça n'a pas vraiment de sens.
Oui. Mais en même temps, c'est ce qui reste. J'en profite pour dire, tiens, je recevrai le chief économiste du FMI. Il viendra le 8 juin, juste avant le sommet du G7. Ça sera intéressant de voir quelle est la position et les préconisations du FMI. Nicolas Bouzou, est-ce que pour vous, le fait, on a l'impression, en écoutant Sylvain Catherine, que la charge de la dette n'est pas si élevée que ça, mais en fait, elle est très très élevée. Non, quand même.
Ce que dit Sylvain, il a complètement raison. C'est que, en fait, on est passé d'un contexte où les taux d'intérêt étaient nuls il y a 4 à 5 ans, à un contexte où les taux d'intérêt vont doucement, pour la dette à 10 ans, on va doucement, tranquillement vers les 4%.
Ouais.
Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va payer ces prochaines années en réalité, puisque aujourd'hui, on s'endette à 4%, les taux vont pas diminuer, et donc au fur et à mesure, année après année, on va considérablement augmenter la charge de la dette. Et là aussi, je suis tout à... Désolé, c'est pas très télévisuel d'être complètement d'accord, mais je suis, ou radiophonique, mais complètement Sylvain, quand il explique que cette question aujourd'hui n'est pas du tout prise au sérieux. On n'en parle pas. Je vous donne un exemple très concret. Qui aujourd'hui s'émeut du fait que le déficit de l'assurance maladie, je parle même pas de la protection sociale, de la simple assurance maladie, sera compris cette année entre 15 et 20 milliards d'euros. Et pareil l'année prochaine. Pour quelle raison ?
Le patron de l'assurance
maladie. Mais
il n'y
a absolument aucune... Oui, bien sûr, Thomas Fatto qui a parfaitement raison. Mais il n'y a aucune raison. Il n'y a pas eu de Covid, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de récession, il n'y a pas eu d'augmentation du chômage. Il ne s'est absolument rien passé cette année qui justifie le fait que l'assurance maladie, qui n'a aucune raison intellectuellement, il n'y a aucune raison que cette branche soit en déficit. Elle est en déficit de 15 ou 20 milliards. Mais ça n'est absolument pas un sujet, personne n'en parle. Et là, on prend de très gros risques pour l'avenir de notre pays.
Ouais, d'accord. Sylvain Catherine, pour vous, quand vous dites il faut des réformes, vous voyez bien, c'est déjà parti, la campagne présidentielle, vous voyez bien qu'on n'est pas parti pour faire des grandes économies. Si vous aviez des grandes réformes, si vous aviez une réforme qui permettrait à la France de mieux s'en sortir, ça serait quoi ?
Ce serait une grande réforme des retraites, probablement basée sur des comptes notionnels, peut-être un système à points, c'est moins idéal. Mais essentiellement, il faut résoudre ce problème-là. Et ça a à la fois l'effet de résoudre la question du déficit dit caché, illisible, qu'importe, de la question des retraites. Et en même temps, d'admettre qu'il va falloir étendre la durée du travail au cours de la vie. Et ça représente en fait le double de l'effet sur les retraites. C'est-à-dire que quand vous ajoutez 1, 2 ou 3 ans d'année de travail, l'effet sur le budget de l'État, il est 2 fois plus gros que l'effet sur l'effet des retraites, parce que vous avez des rentrées qui sont liées à la production, donc des rentrées de TVA, des rentrées d'impôts sur les sociétés, des rentrées de cotisations maladie. Et donc, en fait, c'est là qu'à court terme, en fait, on peut avoir un effet. À long terme, il faut relancer la croissance, mais c'est une question plus...
Et sur le financement, comme ça, c'est une question que je vous poserai, Nicolas, bien sûr, sur le financement des retraites de l'État-providence, qu'est-ce que vous voyez ? Parce que là, on voit bien qu'il y a une poussée, quand même, des Français qui en ont marre d'être mal payés et qui veulent, donc, il faut un rapprochement de la feuille de paye brute, de ce qu'on retire net sur son compte en banque. Comment est-ce que vous voyez ces cotisations sociales ? Comment on peut financer ? Comment on peut peut-être déplacer le coût de cet État-providence ? Sylvain Catherine, vous m'entendez ?
Ah, oh, c'était moi, pardon.
C'était pour vous la question.
Oui, donc, je pense qu'il faut revenir un peu aux origines, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait une population âgée qui était très pauvre, on avait des bras en très grande quantité, et donc on a fait porter tout ça sur le travail. Aujourd'hui, la situation elle est très différente. Juste dans les 30 dernières années, la cohorte la plus riche est passée de 54 ans à 73 ans. Actuellement, on est une situation où, en fait, quand on part à la retraite, on cesse de contribuer à l'État-providence. Mais par exemple, dans le cas de l'assurance maladie, il n'y a aucune raison idéologique que ce soit portée exclusivement par les travailleurs, enfin pas exclusivement, il y a la CSG, mais que ce soit disproportionnellement portée par les travailleurs et pas par les retraités. Donc, on pourrait, par exemple, basculer les cotisations retraite vers une taxe sur le foncier, vers la TVA, vers une CSG, histoire de rééquilibrer un peu ce déséquilibre entre la population retraitée et la population active.
Nicolas Bouzou, vous, c'est quoi votre recette magique ?
Non, j'ai certainement.
Si vous en avez une.
Oui, non, j'ai certainement pas de recette magique, mais je pense en tout cas que la question du financement, qui est vraiment un serpent de mer, et ce sujet dont vous parlez du rapprochement du salaire brut du salaire net, qui est une idée qui a toujours été très à la mode, notamment à droite.
Reconnaissez que maintenant, ça monte.
Mais ça monte parce que ça monte aussi parce que c'est un peu un sujet facile, mais en réalité, je pense que le problème en France, c'est fondamentalement aussi un problème d'insuffisance du salaire brut qui est lié au fait qu'on n'a pas assez de productivité, qu'on n'a pas assez de croissance. Et là, j'aurais peut-être une petite différence avec Sylvain, c'est que je pense qu'il y a quand même des moyens d'aller plus vite en matière de croissance et des moyens assez simples. Tout ce qui est lié à la simplification administrative, tout ce qui est lié... Moi, par exemple, je prône une réécriture d'un certain nombre de codes. Code des marchés publics, code de l'urbanisme, etc.
Code du travail, code du commerce.
Je pense que tout ça est parfaitement facile. Il faudrait faire en gros ce que Napoléon a fait en 1804 avec le code civil, c'est-à-dire vraiment une œuvre de simplification juridique majeure, étant donné le nombre d'entreprises en France, le fait qu'elles sont très présentes sur tout le territoire, dans beaucoup de secteurs, et que beaucoup ont du mal à grandir en raison de ces contraintes. Je peux vous dire que si vous libérez ça, mais la croissance, vous ne l'aurez pas dans 3 ans. La croissance, vous l'aurez 6 mois après cette libération. Et évidemment, ça ne nous empêchera pas de devoir faire réforme des retraites, réforme système de santé, réorganisation de l'État, simplification du millefeuille administratif, etc. Mais je peux vous dire que la croissance sera plus élevée et ça va considérablement nous aider à porter notre dette.
Voilà, le problème, c'est la pédagogie. Vous qui êtes professeur, vous êtes professeur, Sylvain Catherine, à la Wharton School. La question, c'est comment on fait de la pédagogie, comment on essaie de faire comprendre, notamment aux Français, qu'on est dans une situation économique qui devient quand même de plus en plus tendue.
Moi, je pense qu'en fait, les Français, ils sont au courant.
Vous croyez ?
Évidemment, je regarde ça de loin, mais bon, dans leur vote, enfin, ils ont élu un banquier centriste il y a de ça 10 ans. C'est juste qu'en fait, ils ont été déçus. Mais je pense qu'en fait, il y a une demande réformatrice en France. Et il faut juste qu'en fait, que les responsables politiques prennent la mesure et se décident à faire quelque chose.
L'assume. Juste pour conclure, je finis avec vous, Nicolas Bouzou, cette phrase que j'ai trouvée pas mal du Premier ministre, que je trouve que lui, il essaie de faire de la pédagogie, justement, il fait pas de la démagogie. Il dit « la géopolitique est entrée dans le réservoir des Français ».
Oui.
Ah, c'est vrai ?
Il a parfaitement raison. Ouais. Et c'est pour ça
c'est
que...
C'est une très belle phrase.
Mais il a parfaitement raison. C'est l'économie qui s'est géopolitisée, comme je le disais tout à l'heure. Elle est en effet rentrée dans le portefeuille, dans le réservoir des Français. Et donc dans leur portefeuille, c'est la raison pour laquelle tous ces débats un peu démagogiques sur les super profits, sur les aides aux uns et aux autres. Oui, mais il faut, vous parliez de pédagogie, il faut expliquer ça. Il faut expliquer qu'aujourd'hui,
c'est ce qu'on essaie de faire.
Bien sûr, qu'aujourd'hui notre économie, elle est soumise à des désordres géopolitiques qui sont majeurs, que vous pouvez réglementer les prix à la pompe, mais ça ne débouchera pas le détroit d'Ormuz, qui est la cause de nos problèmes. Ça n'aura aucun impact là-dessus. Ouais. Et que même si je voulais aller un peu plus loin dans le raisonnement, je dirais au fond, cette crise géopolitique, elle génère des problèmes d'offres plus que des problèmes de demande. Et donc, en réalité, c'est plutôt aujourd'hui un certain nombre d'entreprises dans certains secteurs qu'il faut aider. C'est ce qu'essaie de faire d'ailleurs le gouvernement avec des moyens qui sont très limités, plutôt que de faire de la démagogie.
Et prenez le télétravail pour les fonctionnaires.
Va aider directement les gens. Acheter un carburant qui risque de toute façon de manquer parce qu'il n'arrivera pas.
Merci beaucoup, messieurs. Merci, Sylvain, Catherine. Merci.
On vous rend
à vos élèves et à votre petite courbe qui était derrière vous. Merci beaucoup, professeur à la Wharton School. Et puis, Nicolas Bouzou, merci beaucoup. À très vite, tous les deux. Voilà, c'est la fin de ce 18-19. Tout de suite, vous retrouvez Stéphanie Collot pour son journal de l'écho.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.